Eh bien voilà, le mardi 11 avril est arrivé, juste après le 10 et pas très loin du 12. Vous êtes à l'écoute de Radioactive, la radio des citoyens et des sapins. Et pour la troisième semaine consécutive, nous sommes installés, comme des rois et des reines, au CDI du Collège de la Source, à Mout. Pour un peu, et on en reprendrait l'habitude. Sachez, chers auditeurs, que cette semaine, ce sont les élèves de 3e 1 qui sont aux commandes du paquebot radiophonique et que tout semble opérationnel pour que nous prenions le large en votre compagnie. Et au gouvernail, aujourd'hui, c'est Émilie. Allons, bons amis, fiers moussaillons, tous en voile, dehors, visiter, sujets, chroniques et billets. Que nous réservent nos joyeux animateurs? Eh bien, pour le savoir, sortons de notre chapeau le sommaire de cette dernière émission de la saison. À la volée, et sans plaisanter, le divorce, l'homoparentalité, inégalité homme-femme, téléphone, jeux vidéo, services militaires, trucage footballistique, racisme, réseaux sociaux, préjugés, prix du lait, visite guidée et un brin de musique pour digérer le tout. Allez hop, j'accueille dans la foulée mes premières invités, Zoé et Linoa. Nous avons avec nous la maman de la classe de 3e 1, Zoé et Linoa, qui elle a toujours la tête dans les livres et la zen attitude. Bonjour.
Bonjour Émilie, vous allez bien ?
Oui, très bien, merci.
Bonjour Linoa, vous allez bien ?
Bonjour Zoé, ça va et vous ?
Je vais bien, merci. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour parler de racisme. Donc, j'ai quelques questions à vous poser et vous me donnerez votre point de vue. D'abord, je voudrais savoir ce que vous entendez par racisme.
Pour moi, le racisme, c'est n'importe quelle distinction négative vis-à-vis d'un étranger. C'est un rejet, une marginalisation ou une manifestation violente contre des personnes d'une autre race, culture, religion ou idéologie.
En général, dans la société, quelles sont les causes du racisme ?
Je pense que les gens rejettent l'inconnu.
Parmi les Tziganes, les Noirs, les Turcs, les Juifs et les Maghrébins, pouvez-vous me donner une note sur une échelle de 1 à 5 qui vous semble juste par rapport au degré de discrimination dont ils souffrent en France ?
Je dirais que pour moi, les 5 degrés visent à identifier différents types de préjugés. Pour moi, le premier degré, c'est l'antilocution.
L'antilocution,
c'est un synonyme pour dire la plaisanterie. Le deuxième, c'est l'évitement, l'invisibilité ou l'indifférence. Le troisième, c'est la discrimination. Le quatrième, c'est l'attaque physique. Et le cinquième, c'est l'extermination.
Êtes-vous déjà allé dans un autre pays où le racisme était présent ?
Oui, je suis partie en Guadeloupe et toutes les personnes sont de couleur noire. Et ma famille et moi, nous étions les seuls blancs. Donc, on avait le droit à des regards omniprésents.
Moi, par exemple, je suis partie en Égypte. Je n'ai pas vraiment vu de forme de racisme ou de personnes racistes. Ça nous met quand même le doute sur le racisme dans les différents pays.
Oui.
Le racisme peut-il se justifier dans certains cas ?
Non, aucun cas.
Connaissez-vous des sanctions en France pour quelqu'un qui a fait preuve de racisme ?
J'ai vu sur un site qui s'appelle égalitécontreracisme.fr que pour l'injure raciste, lorsqu'elle est publique, l'auteur du crime encourt jusqu'à 1 an de prison et 45 000 euros d'amende. Lorsqu'elle n'est pas publique, elle est punie d'une amende de 750 euros.
Waouh, c'est énorme !
Après, il y a encore plein d'autres types de délits, comme la diffamation raciste, la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, le délit d'apologie des crimes et plein d'autres. Les sanctions peuvent aller de 750 euros jusqu'à 45 000 euros d'amende et de 1 à 5 ans de prison selon la gravité des gestes.
Avez-vous déjà été témoin directement d'un épisode ou une situation de racisme ?
Oui.
Pouvez-vous nous en parler ?
Oui, c'était il y a 6 ans, en août 2011. Ce jour-là, il faisait beau et chaud. Avec ma famille, nous avons décidé d'aller se promener dans la grande rue du village où l'on venait d'aménager, à Mout. Pendant que nous marchions avec mon beau-père qui est noir, les gens nous regardaient bizarrement, surtout mon beau-père. Après cet épisode, nous avons décidé de marcher plus vite jusqu'à ce que l'on soit arrivé chez nous.
Oui, mais vous vous en doutiez peut-être, non ?
Non, parce qu'avant d'habiter à Mout, j'ai vécu dans une grande ville, à Rennes, en Bretagne. Nous avions déménagé pour raisons professionnelles et personnelles. Les gens avaient plus l'habitude de la mixité des cultures. Ils avaient plusieurs religions et races, comme les Arabes, les Turcs, les Noirs et plein d'autres encore. Même si pour moi, il n'y a pas de race, nous sommes tous égaux. Nous avons juste des différences. Si nous étions tous pareils, avec aucune différence, il n'y aurait pas de richesse et de diversité.
Dans votre entourage, avez-vous des personnes qui tiennent des propos racistes ?
Oui, mon père. Quand il a appris que ma mère s'était mariée avec un Noir, il a tenu beaucoup de propos racistes. Il ne comprenait pas pourquoi elle s'intéressait à un Noir.
Qu'en pensez-vous ?
Je trouve que les gens sont vraiment pas ouverts d'esprit. Tout le monde devrait apprendre à connaître toutes les cultures. Personne ne devrait juger par une langue ou une couleur de peau.
Très bien, donc pour finir, avez-vous une citation en rapport avec tout ce que l'on vient de dire que vous aimez bien ?
Oui, j'en ai une. Blanc sans haine, ça fait black. Comme quoi sans haine, on est tous égaux.
Ah ouais, ça claque, j'adore. Ok, merci beaucoup pour votre témoignage, Linoa, et merci pour votre accueil, Émilie.
Au revoir.
Merci beaucoup, les filles. Et maintenant, allons voir s'il n'y a pas encore de route à faire. Intéressons-nous au micro-reportage que 3 élèves ont réalisé. Léa, Isia et Alice m'ont rejoint autour de la table. 3 jeunes filles ont abordé des personnes dans la rue pour recueillir leurs avis sur le racisme. Alors accueillons-les. Léa, adepte du shopping et du McDo, Isia, qui aime l'odeur du foin, et Alice, skieuse, presque professionnelle.
Les racistes ont progressé de 17,5% en 2015 avec un total d'environ 800 actes et menaces d'après le site gouvernement.fr.
Aujourd'hui, si nous avons choisi de parler du racisme, c'est parce que c'est un sujet qui nous touche particulièrement. Nous avons des amis d'origine arabe qui en sont victimes et on trouve ça lamentable. Nous sommes allés interroger des personnes dans la rue pour avoir leurs avis.
Voici la question que nous avons posée. Êtes-vous plutôt pour ou contre l'interdiction du voile en France ?
Contre.
Pourquoi ?
Parce que j'estime qu'on a beau être en France, on ne va pas tous se mettre dans des tenues vestimentaires religieuses.
Voici la deuxième question que nous avons posée. Pensez-vous que le racisme touche seulement les personnes de couleur ?
Non. Le racisme, enfin, la logique veut que ça concerne les gens de couleur, mais pas uniquement, ce sont des gens avec des cultures différentes aussi. Hein, et puis c'est la discrimination.
Voici une autre question. Que pensez-vous de certains préjugés, comme le fait que ce soit toujours des personnes d'origine arabe qui sont source de problèmes ?
Si c'est eux, non. C'est qu'ils ont bien des problèmes, et puis ils n'arrivent peut-être pas à les gérer autrement que par la violence.
Et vous êtes d'accord avec ça ? Que c'est souvent eux ?
Ah oui, je suis d'accord. Je trouve que c'est souvent eux.
Pourquoi ?
Justement, je pense qu'ils ont plus de problèmes que peut-être certaines personnes, mais... Peut-être que c'est un peuple qui n'a pas été entendu, écouté, et puis bien traité, et puis quelque part, tout ça, ça ressort de cette façon.
Parce qu'il y en a beaucoup qui sont source de problèmes. Moi, j'habite la région parisienne, et c'est une source de problèmes.
Mais pourquoi ?
Parce qu'ils sont plus racistes que nous.
Et enfin, pour la dernière question, êtes-vous d'accord avec l'idée de la préférence nationale proposée par certains candidats à l'élection ?
Non.
Pourquoi ?
Parce que je ne peux pas cautionner certains propos.
Oui, quand même.
Pourquoi ?
Parce que j'estime que celui qui n'est pas français, il n'a pas à voter en France.
Oui.
Voilà. Il n'est pas français, il ne vote pas. Le français vote. Celui qui est naturalisé français, qui a sa carte de français, peut voter.
Et pour finir, d'après nos informations recueillies auprès des personnes du village de Mout, nous avons pu remarquer que le racisme à l'ancienne n'est plus vraiment présent dans notre société et qu'à la question « Pensez-vous qu'il y ait des races inférieures à d'autres ?», la plupart répondent que non. Mais les gens font preuve de xénophobie, c'est-à-dire de peur vis-à-vis de ce qui est différent, car ils ont peur de l'inconnu.
On finit sur une citation d'Averroès, un auteur du XIIe siècle.
L'ignorance mène à la peur mène à la haine conduit à la violence, voilà l'équation.
Merci les filles.
De rien.
Et tout de suite, un brin de djembé et une cuillerée de batterie avec Manon et Nicolas pour un morceau improvisé. Accueillons maintenant Aurore et Leïla qui vont nous parler de l'homoparentalité. Vaste programme. Aurore, vous êtes une grande danseuse, vous gardez toujours la tête froide. Et Leïla, vous nous venez tout droit de Londres et votre humour anglais est bien particulier. Bonjour.
Bonjour. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler de l'homoparentalité car il est temps que la société change, que notre société évolue et que les gens soient plus ouverts d'esprit.
Effectivement. Quand un individu a le courage de montrer, d'affirmer une de ses différences, par exemple, dans notre sujet l'homosexualité, il est tout de suite jugé, rejeté et montré du doigt.
Certains adolescents se font parfois rejeter, voire renier par leurs propres parents. C'est pas normal.
30% des homosexuels de moins de 25 ans tenteraient de se suicider. C'est impensable. Mais pourquoi ?
Parce qu'en France...
J'en profite pour vous rappeler que nous sommes en direct au Collège de la Source et que chaque intercours est ponctué d'une petite sonnerie. Mais reprenons le cours de notre émission.
Parce qu'en France, les gens ont plutôt tendance à être xénophobes. C'est peur du changement et de l'étranger. Mais pourtant, notre gouvernement essaye d'intégrer de nouvelles lois pour permettre aux gens de mieux s'épanouir dans leur vie.
L'exemple du mariage pour tous, loi Taubira votée et déclarée le 17 mai 2013, a fait déplacer un nombre incalculable de Français un dimanche après-midi.
Mais ils avaient que ça à faire ?
Bah, il faut croire que c'était important.
D'ailleurs, suite à cette loi, des débats font rage par rapport à l'homoparentalité. Je suis dans l'incompréhension.
C'est quoi l'homoparentalité en fait ?
L'homoparentalité, c'est quand une personne homosexuelle de sexe masculin mais qui est adulte et a une attirance pour un adolescent ou un truc.
L'homoparentalité ?
Non, tu as confondu ça avec la définition de PD. L'homoparentalité, c'est quand deux personnes du même sexe choisissent d'avoir un enfant.
Ok, merci, c'est pas grave. On vous en veut pas. Ok, très bien, je crois que vous avez un invité.
Oui, nous avons demandé à Arthur de venir avec nous pour qu'il nous parle de l'homoparentalité, justement. Et du coup, Arthur, bonjour.
Bonjour.
Alors du coup, on voulait savoir quel est votre avis. Est-ce que vous êtes pour ou contre le fait qu'un couple homosexuel puisse avoir des enfants ? Et pourquoi ?
Pour mon avis, je suis plutôt contre l'homoparentalité, car pour moi, un enfant a besoin d'une mère et d'un père, et pas de deux parents du même sexe. Parce qu'un père apporte pas la même chose qu'une mère.
Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que on dit rien sur, par exemple, les divorces quand c'est que un seul parent qui s'occupe de l'enfant. Et il y a personne qui se plaint là-dessus, donc je comprends pas pourquoi ils se plaindraient sur l'homoparentalité et pas sur ça.
Mais c'est parce qu'ils sont quand même hétérosexuels et ils sont pas homosexuels, même s'ils sont tout seuls. C'est pas parce qu'ils sont tout seuls qu'ils doivent changer leur orientation sexuelle.
Non, ce qu'elle est en train de dire, c'est que quand il y a un divorce, il n'y a qu'une seule personne qui s'occupe de ça. Et si, par exemple, c'est une femme qui s'occupe de ses enfants, il n'y a pas de présence masculine. Et là, ils ont le droit de s'occuper de l'enfant. Et il y a des gens qui sont contre le fait que des homosexuels aient, alors qu'il n'y a pas de présence, par exemple, masculine, justement.
Oui, mais comme si un enfant se promène avec ses parents et que ses deux parents sont du même sexe et que d'autres enfants le voient et puis que leurs parents sont hétérosexuels, ils vont le regarder différemment parce qu'il est différent. Et puis...
Mais pourquoi ? Pourquoi il...
Bah parce que la société d'aujourd'hui est comme ça et puis...
Oui, mais il faut que ça devienne normal.
Il faut que ça évolue.
Justement.
Changeons la société.
Du coup, vous pensez plus que les gens sont xénophobes ou homophobes ?
Pour moi, je pense plus qu'ils sont homophobes car... pour eux, c'est une évidence que le monde est fait d'un homme et d'une femme et non de deux hommes ou deux femmes.
Oui, mais ils n'ont pas peur que de ça. Par exemple, le racisme, quand on a évoqué juste avant, il ne change rien non plus et ils ont peur de ça aussi. Enfin, ils ont toujours les mêmes pensées qu'avant. Ça ne change pas.
Et justement, nous, on pense que ça doit évoluer. Moi, je pense plutôt que c'est de la xénophobie. Parce que c'est le peur que quelque chose change et pour eux la tradition c'est un homme une femme. Par exemple vous n'êtes pas homophobe mais vous êtes contre l'homoparentalité.
Oui parce que moi je suis pour le bonheur des parents mais je suis contre le malheur des enfants parce que souvent un enfant issu de deux parents homosexuels déjà, ils veulent trouver leur géniteur, car ils ont envie de savoir qui c'est leur vrai parent. Et souvent, ça peut leur rendre malheureux.
Bah, je pense que tu as raison, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'ils devraient avoir le droit de connaître qui c'est leurs vrais parents. Mais ça, c'est plutôt le choix des parents. Mais oui, je suis d'accord. Je pense qu'ils devraient avoir le droit d'aller voir leurs vrais parents, puis voir qui c'est.
Qui les a mis au monde.
Voilà. Donc, pour conclure, le pourcentage d'homophobie en France a baissé de 40% de 2014 jusqu'à 2016. C'est une étude faite par un site qui s'appelle SOS Homophobie. On a néanmoins toujours trop d'actes contre les homosexuels, même si les personnes qui sont pour le mariage pour tous pourraient sans le vouloir commettre des actes de xénophobie, comme par exemple les blagues, qui ont peut-être l'air de rien quand on les dit, mais cela pourrait avoir des conséquences sur la ou les personnes visées.
C'est comme le terme PD que j'évoquais tout à l'heure, que je me suis trompée. Qu'il y en a plein qui ne savent pas ce que ça veut dire, et en fait, ils l'utilisent, mais je suis d'accord, c'est un peu une insulte, mais ils l'utilisent sans savoir, et puis je pense qu'il faudrait quand même savoir avant de parler, et réfléchir.
Oui, je suis d'accord. Ainsi, le sujet qu'on voulait vraiment aborder était les préjugés, justement, en démontrant que la société est encore trop fermée d'esprit, alors que les gens changent.
On va clore ce sujet avec une citation de Einstein. Le monde que nous avons créé est un produit de notre pensée. Pardon. Nous ne pouvons pas la changer sans changer notre façon de penser.
Merci beaucoup les filles et Arthur.
De rien. Merci à vous.
Et à bientôt, bonne route. J'espère que vous reviendrez. C'était un extrait du Lac des Cygnes de Tchaïkovski, interprété par Zoé à la flûte traversière. Zoé que nous retrouverons tout au long de l'émission. Et maintenant, accueillons Chloé et Manon. Chloé a le sang chaud, un caractère de feu. Manon, vous êtes de petite taille, mais c'est pas très grave. Vous savez vous faire entendre. Bonjour.
Bonjour. Bah nous, Émilie, aujourd'hui on est venu avec un sujet en or. C'est du béton, il n'y a pas d'autre mot. Vous voulez savoir ce que c'est?
Ah oui.
Attention, attention, tenez-vous bien, l'inégalité homme-femme. Quand je dis homme-femme, je pourrais très bien dire femme-homme. Dans les deux sens, ça marche et ça ne règle pas le problème.
Depuis toujours, les inégalités homme-femme sont omniprésentes, toujours, c'est-à-dire depuis la nuit des temps, depuis que l'homme est homme et que la femme est femme.
Par exemple, on parle beaucoup de l'homme des cavernes, celui qui chasse, qui pêche, qui tape sur son voisin avec un gros gourdin, mal dépoli, mais on parle moins, voire beaucoup moins de la femme des cavernes. Tout aussi importante, mais largement moins populaire.
Et pourtant, c'est bien elle qui partait à la cueillette de bon matin, qui lavait les parois de la grotte, plafond compris, qui ramenait les mioches par la peau des fesses quand ils allaient trop loin, qui soufflait sur le feu pour que la marmite fasse son boulot, et bien d'autres choses encore.
Enfin, tout ça pour dire qu'à toute époque, on sent bien que l'homme et la femme ne boxent pas dans la même catégorie. Il a fallu attendre très, très, très longtemps avant qu'il se passe enfin quelque chose d'intelligent.
À partir de 1791, les inégalités tentent à être réduites. Ouah, super. Enfin, c'est pas parce que c'est écrit que c'est appliqué, bien entendu. Enfin bref, on avance.
Et au fil du temps, plusieurs lois sont apparues, comme la Déclaration des droits de la femme et la loi Génisson sur l'égalité professionnelle. La fameuse loi Génisson que tout le monde connaît, bien entendu.
Non, c'est quoi cette loi?
C'était de l'ironie, mais je vais quand même vous expliquer. C'est une loi qui impose aux syndicats de faire figurer au moment des négociations au sein de l'entreprise les questions d'égalité homme-femme. Égalité salariale de formation et organisation du temps de travail.
Pourquoi les hommes gagnent plus que les femmes?
Ça doit être à cause de l'intelligence des patrons.
Ah oui, je pense.
Malgré cette loi révolutionnaire qui va sans doute changer le monde,
youpi,
les inégalités sont toujours présentes. En effet, les hommes gagnent en moyenne 16% de plus que les femmes pour un même travail, sauf pour les fonctionnaires.
Et toi, Chloé, qu'est-ce que tu voudras faire quand tu seras plus grande ?
Moi, j'aimerais être fonctionnaire.
Moi aussi.
Et maintenant, accueillons Salomé, votre invitée.
Bonjour Salomé.
Bonjour.
Vous êtes une femme ?
Oui, oui.
Pourtant, vous pensez que les hommes sont supérieurs à nous. Pourquoi pensez-vous cela ?
Bah, pour moi, c'est normal. Les femmes sont inférieures aux hommes de tous les points de vue. Ils sont plus forts, plus intelligents, ils ont plus de caractère. La preuve, ils sont beaucoup mieux payés. D'ailleurs, je ne vois même pas pourquoi les femmes devraient travailler dehors, puisque c'est notre travail de s'occuper de la maison.
Je suppose que vous pensez aussi que c'est à la femme de s'occuper des enfants ?
Mais bien sûr, c'est la femme qui les a voulus, la femme qui les a faits, donc c'est à elle de s'en occuper. Déjà que l'homme travaille et ramène l'argent, il ne va pas en plus s'occuper de la maison et des gosses. Oh, le pauvre.
Donc, vous pensez qu'il y a des choses réservées aux hommes et d'autres aux femmes ?
Tout à fait. On dit bien une femme de ménage. Par contre, on dit un ingénieur, un chef d'entreprise, un maçon, un médecin, un pompier. Bref, tout ça pour prouver encore une fois que l'homme est supérieur.
Que pensez-vous du combat des femmes ? Vous savez, ces féministes qui manifestent seins nus dans les rues.
Pardon ? Je trouve ça totalement débile. Déjà, leur cause est inutile et de plus, une femme doit à son mari de se respecter. C'est un minimum.
Mais attendez, vous pensez vraiment ce que vous dites ?
Pas une seule seconde. Non mais vous avez cru que je pensais tout ce que je disais ? Seulement énormément de personnes le pensent et je trouve ça inadmissible.
Ok, merci beaucoup les filles pour cette chronique. Et maintenant, une petite pause musicale avec Je suis de Big Flo et Oli.
Je suis enfermé à l'étroit dans ma cellule. Tous les jours le même café, mais c'est le temps qui est soluble. Ces bonnes actions que l'on regrette, ces erreurs que l'on refait. Au parloir, je parle autant à mon fils qu'à mon reflet.
Je suis gelé, j'enchaîne les vers et les hivers. Pour se rassurer, les passants doivent tous penser que l'on hiberne. Bercé par le son des pas et le bruit des pièces dans les poches. Entre ce type et mon chien, je me demande de qui je suis le plus proche.
Je suis riche, ils veulent me faire croire que c'est une honte. Comme si j'étais responsable de toute la misère du monde. Moi, je dois rien à personne, même si l'argent vient à manquer. Ils veulent tous goûter aux fruits de l'arbre que j'ai planté.
Je suis malade, mais je préfère dire futur soigné. Mes pupilles fixent l'aiguille de la montre qui brille sur mon poignet. À l'étroit dans mon corps, je regarde le monde par le trou de la serrure. Les gens diront que je n'ai fait qu'agrandir celui de la sécu.
Je suis croyant, on me reproche souvent de l'être. On me reproche ma barbe, pourtant j'ai la même que Jean Jaurès. On me compare à des barbares auxquels je n'ai jamais cru. Les mosquées sont trop petites, alors parfois je prie dans la rue.
Je suis un peu perdu, mes petits poumons se remplissent d'air. Nouveau venu sur terre, mes premières larmes déclenchent celles de mon père. Une chance auprès de ma famille, je me sens à ma place. Mais je n'oublie pas que j'aurais pu naître dans la chambre d'en face.
Je suis seul au fond d'un couloir, on demande pas mon avis. J'ai pris de l'âge, donc voilà, j'ai bien plus de rides que d'amis. J'aimerais partager mes erreurs, vous faire part de mes doutes. Parfois je me parle à moi-même pour être sûr que quelqu'un m'écoute.
Je suis épuisé, mais plus pour longtemps, j'en suis sûr. Les sonneries téléphonent, la pression élargit mes blessures. Je me souviens pas de la date de mon dernier fou rire. Je suis un homme, bientôt je serai un souvenir.
Je suis enfin là, cette terre n'est plus un mirage. Je suis arrivé par bateau, mais surtout par miracle. Une nouvelle vie m'attend ici, bien plus calme et plus stable. Ce matin j'ai écrit tout va bien au dos de la carte postale.
Je suis fier, mais comment vous décrire tout ce que je ressens.
Maintenant place à Grégory et à Miguel. Grégory et Miguel, vous êtes tous deux amoureux de la nature, ce qui est une bonne idée lorsqu'on habite à Villedieu et à l'Avergement. Vous allez aborder un sujet qui touche quasiment tout le monde, les préjugés.
On a voulu vous parler des préjugés, mais savez-vous ce que cela signifie ?
Pas vraiment.
Le mot préjugé est composé du préfixe pré, ce qui signifie avant, mais aussi de juger. Au final, un préjugé est un jugement sur une personne avant même de la connaître.
Dans cette société de consommation, les jugements sont omniprésents. On a tous jugé quelqu'un dans notre vie, mais on a tous déjà été jugés sur nos apparences, nos choix, nos religions, sur toute notre vie.
Aujourd'hui, et même depuis tout le temps, des personnes jugent sur des critères qui ne devraient plus exister, comme la couleur de peau, les origines de chacun. Par exemple, quand on regroupe tous les Arabes dans le même sac. En effet, beaucoup pensent que ce sont des personnes malfaisantes alors que non. Certains ne voient dans ces populations que des terroristes ou des personnes sans diplôme, alors que parmi les réfugiés, il y a aussi des médecins, des ingénieurs et surtout beaucoup de pacifistes qui cherchent qu'à fuir la guerre.
On est aussi souvent jugé sur ce que l'on possède, sur notre classe sociale. A-t-on une belle voiture de marque allemande, des vêtements de couturier ou le dernier iPhone 7 ? On trouve que ce genre de considération n'a pas lieu d'être, car le plus important, ce n'est pas l'apparence, mais ce qu'on est au fond. Ainsi, quand on va dans certains pays du tiers-monde, on se rend compte que des gens très pauvres sont prêts à donner beaucoup, alors que certaines personnes riches se montrent égoïstes. Les gens jugent par rapport à ce qu'ils voient, mais ils n'essayent pas de voir plus loin. Ils regardent juste les apparences, qui sont parfois trompeuses. Comme le dit le dicton, tout ce qui brille n'est pas d'or.
On trouve ça inacceptable de porter des jugements. Ça devrait être interdit. Au fond, on est tous les mêmes. Pour finir, voici une citation de Victor Hugo. Les plus petits esprits ont les plus gros préjugés.
Merci pour cette chronique.
Merci.
Merci.
Une petite dédicace à notre sonnerie adorée. Je veux parler de celle du collège, celle que nos oreilles entendent à chaque heure d'intercours. C'est donc Aretha Franklin avec Don't Play That Song. J'accueille maintenant Salomé, Nicolas et Lilou à l'antenne. Salomé, vous êtes golfeuse de haut niveau, ou enfin presque. Lilou, vous êtes une nageuse toujours à l'affût de la mode. Et Nicolas, vous êtes un jeune footballeur fan de Vaud. Bonjour à vous trois.
Bonjour. Bonjour Émilie. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler d'Internet et de ses problèmes causés plus particulièrement par les réseaux sociaux. Donc Nicolas, je sais que vous avez fait des recherches. Pouvez-vous nous en parler ?
Oui, donc, d'après le dico du net, Internet est un réseau informatique créé grâce à l'interconnexion de réseaux et d'ordinateurs entre eux. Internet fournit aujourd'hui une multitude de services à travers le monde.
Et vous, Lilou, qu'est-ce que vous avez trouvé ?
Les réseaux sociaux deviennent la première grosse activité du web en 2002-2003. Le premier réseau social s'appelait classmat.com. Il a été créé en 1995 par Randy Conrads. L'objectif de ce site était de remettre en contact des anciens camarades de classe. Ensuite, il y eut MSN, Facebook, Instagram, Snapchat, bien connus de tous.
Et d'après le blog du modérateur, 37% de la population sont inscrits sur les réseaux sociaux et 85% des Français ont accès à Internet.
Ce monde virtuel, c'est le paradis pour ceux qui souhaitent apprendre, améliorer leur culture, découvrir de nouveaux domaines ou encore communiquer. Hélas, comme dans la vie réelle, Internet est aussi un monde peuplé de dangers.
Savez-vous, Émilie, quels sont les problèmes causés par les réseaux sociaux ?
L'isolement, non ?
Il y en a plusieurs de problèmes. En un, je dirais une perte de temps énorme sur les réseaux sociaux. Rendez-vous compte, les Français passent en moyenne 1h16 par jour sur les réseaux sociaux.
C'est beaucoup ?
Et combien de fois nos parents nous ont reproché d'être trop sur nos portables ?
Ah, beaucoup trop.
En deux, le cyberharcèlement, un phénomène qui progresse de jour en jour. Le principe est très simple, des personnes s'acharnent sur d'autres derrière leurs écrans.
En trois, à force de se rendre sur les réseaux sociaux, on a de plus en plus de mal à décrocher et on veut rester en contact permanent avec ses amis.
En quatre, sur les réseaux sociaux, on voit souvent des fausses informations qui peuvent porter à confusion.
Enfin, sur les réseaux sociaux, aucune place pour la vie privée. Tout est public. Il est impossible d'effacer la totalité d'un contenu publié. Tout ce qui est sur Internet y restera. C'est pourquoi il faut veiller à ce qu'on publie.
Et savez-vous quels sont les problèmes que les parents rencontrent face aux réseaux sociaux de leurs enfants ?
Le refermement sur soi.
Pas que. Ça provoque l'isolement et le repli social. La nouvelle génération d'enfants qui arrive devient de plus en plus accrochée à leurs écrans. Les jeunes enfants ont des téléphones de plus en plus tôt. Ils peuvent par exemple trouver tout et n'importe quoi, comme se rendre sur des sites pornographiques qui peuvent choquer les plus jeunes.
D'après des témoignages, on constate que les parents ne maîtrisent pas les réseaux sociaux aussi bien que leurs enfants. Cette nouveauté n'est pas de leur génération. Ensuite, on trouve de plus en plus que le manque de communication est omniprésent. En effet, les enfants ne parlent plus en vrai, mais seulement par message. Qu'est-ce que notre génération va-t-elle devenir, Émilie ?
Ah, ça je ne sais pas.
Peut-on appeler ça une addiction pour tous les jeunes ? Il n'y a pas d'addiction à Internet ou aux réseaux sociaux. Ce terme n'est pas approprié. On est dépendant d'une drogue parce qu'elle contient des substances. Ce n'est donc pas le cas pour Internet ou les réseaux sociaux.
Prenons un exemple. Une star du net qui a décidé de quitter tous ses réseaux sociaux qu'elle utilisait. Pour se justifier, elle affirme que les réseaux sociaux n'ont rien à voir avec la réalité. C'est un système basé sur la reconnaissance sociale, le nombre de likes et le succès en fonction du nombre d'abonnés. C'est parfaitement organisé et ça absorbe tout jugement personnel.
Merci beaucoup, Nicolas, Salomé et Lilou. Et faites tous attention avec les réseaux sociaux, c'est avec modération. Au revoir, à bientôt.
Au revoir.
C'était Zoé, notre Zoé de la radio, avec l'acrobate de Daniel Bonnet. Mesdames et messieurs, sans plus attendre, Lenny. Il est de la vieille école, il est persuadé d'avoir 45 ans alors qu'il n'en a que 14, il a les cheveux bouclés et un fort accent de Franche-Comté. Lenny, je vous souhaite la bienvenue.
Merci, bonjour.
Bonjour.
Alors, si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler des jeunes et leur téléphone. Alors, quand je dis les jeunes, c'est les élèves en général, de la 6e à la terminale. Je trouve que les jeunes sont de plus en plus souvent sur leur téléphone et de plus en plus tôt. Et ça devient même presque comme une drogue, parce que essayez de faire une expérience. Enlevez le téléphone à un jeune pendant une semaine, en gros une semaine, et regardez, il va devenir agressif, déboussolé. Ça peut être... il va être perdu, complètement perdu. Or, c'est quand même dingue d'en arriver à un point où sans un téléphone, enfin, c'est un écran, puis par contre, je mets une carte électronique derrière, ça peut rendre une personne vraiment changée si elle n'en possède pas. Ça serait comme couper un bras de quelqu'un, mais non, c'est pas... Après, c'est tellement important que c'est même plus important moralement, peut-être, qu'un trousseau de clés. Pourtant, un trousseau de clés, bah, c'est tout, quoi. C'est la sécurité, c'est la maison, puis la maison, bah, c'est là qu'on est en famille, qu'il se passe des bons moments, puis tout ça. Alors, c'est quand même... Alors qu'un téléphone, bah, c'est rien, c'est de l'isolement. Alors, à votre avis, Émilie, sur tous les élèves du collège de la Source, combien il y en a qui n'ont pas de téléphone ? Ça, ce sera.
Bah, je pense qu'ils en ont tous.
Eh ben non, il y en a qu'un. Puis c'est moi, j'ai pas de téléphone. Et puis je m'en sors très bien sans. Après, je vais pas vous mentir que bah je cracherai pas sur un téléphone. Bref, je vis très bien sans, puis avec tout ce qu'ils disent des ondes, ça ne me dérange pas plus que ça. Après, les téléphones, c'est ça, tout le monde doit savoir, si on montre un téléphone, c'est presque une culture générale de savoir quelle marque c'est, quel modèle, quelle option il y a. Maintenant, c'est presque plus important de savoir quel téléphone c'est que où est né Victor Hugo.
Mais vous ne pensez pas qu'on peut être intelligent et avoir un téléphone ?
Bah, y en a, mais il faut bien trouver. Ah. Après, ça dépend intelligent à quel point vous pensez, mais...
Donc, prenez pas de téléphone, alors.
Moi, je suis pas, oui. Oui, voilà. Mais après, les téléphones aussi, ça coupe les liens sociaux. C'est comme, par exemple, dans mon bus, je sais qu'il y en a, avant de nous dire bonjour, eh ben, ils vont sortir le téléphone. Vous trouvez ça normal, vous ?
Ah non.
Mais ça vient arriver à un point qu'il y en a qui sont presque arrivés avec une batterie pour recharger leur téléphone pendant le collège. Alors, qu'est-ce qu'ils font avec ? Vous me le dites, ça ? Qu'est-ce qu'ils font avec ? Vous savez pas, puis moi non plus. On saura pas. Alors, c'est quand même... Ça arrive à un point pas possible. Puis, après, les téléphones, ça attire tout le monde. Ça, c'est des aimants à yeux. Des aimants à yeux. Bon, voilà, tant pis. Allez, allumez un téléphone. Vous allez voir, tout le monde va avoir les yeux rivés dessus.
Même vous ?
Ah oui, tout le monde, ça tire les yeux, c'est pas possible. Et puis, on dit à des gens, essaye de sans ton téléphone, c'est pas possible. Moi, je vous le dis, je suis à preuve vivante. J'arrive à vivre sans téléphone, puis je m'en sors très bien.
Mais vous pensez que c'est que les jeunes qui sont accros à leur téléphone ?
Non, je pense qu'il y a les adultes aussi, il y en a qui sont accros, mais ça commence de plus en plus tôt. Vous n'êtes pas d'accord ? En sixième, ils arrivent, c'est comme si c'est écrit sur la liste de fournitures scolaires, téléphone. Vous pensez pas à ça ?
Ah si.
Non, mais c'est quand même dingue.
Ah oui, c'est dingue.
Puis maintenant, c'est comme je vous disais, les gens disent qu'on ne peut pas vivre sans leur téléphone. Bah, moi, je peux vous citer, je connais un maire, il n'a pas de téléphone, puis il s'en sort très bien sans. Sans téléphone, tout ça, il arrive bien, il est maire, il gère bien son village, et puis tout va bien.
Mais c'est quand même plus facile pour communiquer, non ?
C'est vrai, mais il s'en sort bien sans téléphone. C'est comme, après, les téléphones aussi, ça peut être bien pour communiquer, comme vous dites, mais ça coupe les liens sociaux, ça coupe tout. Vous avez déjà vu, il y a des familles qui vont au restaurant, les parents sont sur le téléphone et les enfants, ils ont la tablette. Vous trouvez ça normal ?
Ah non, il faut l'utiliser à bon escient.
Bah, il y en a qui ne savent pas faire ça. Mais après, le téléphone, pour conclure, je vais vous dire ça, c'est comme une cigarette. C'est facile de commencer, mais il y a moins de monde pour arrêter.
Bah, ne commencez jamais alors.
Exactement.
Merci beaucoup, Lénie, pour cette chronique. Et maintenant, nous allons écouter Shooting Star de Beck Reader. Maintenant, Virgile et Théo.
Bonjour Émilie.
Bonjour. Alors vous allez nous parler des dangers des réseaux sociaux, c'est ça ?
Exactement. Pas totalement. Des jeux vidéo.
Des jeux vidéo.
Oui, des jeux vidéo. Excusez-moi.
Ce n'est pas grave. Alors, aujourd'hui, dans les médias, lorsqu'un acte violent est commis, le lien avec les jeux vidéo est rapidement fait. On parle, par exemple, d'agressions qui auraient été causées par des fans de jeux vidéo violents. Et on raconte qu'ils ont commis ces crimes pour faire comme dans leur jeu. Or, ces crimes sont souvent commis par des personnes instables mentalement, des fous. Ou des personnes ou des enfants qui ont acheté ce jeu alors qu'ils étaient en dessous de la limite d'âge. Vous l'avez compris, le problème ici, c'est les parents. Bah oui, le problème vient ici des parents irresponsables qui ont acheté le jeu sans se préoccuper des formes de violence qu'il y a à l'intérieur et qui laissent leurs enfants jouer à des jeux trop violents pour eux.
Ce sont aussi souvent ces mêmes parents qui ne s'occupent pas de leurs enfants et les enfants se mettent alors à commettre des bêtises de plus en plus grosses au fur et à mesure que leur âge avance pour attirer l'attention des parents. Et parfois, ça peut même se finir au tribunal, de la même façon qu'avec les jeux vidéo. Et lorsqu'un adulte achète une bouteille d'alcool, par exemple, à un mineur, on considère que l'adulte est responsable. Alors pourquoi pas pareil pour un jeu vidéo ?
Les médias disent aussi que les adultes passent beaucoup trop de temps devant un écran. Pensez-vous que c'est vrai, Émilie ?
Oui.
Et ils ne font plus la différence entre la réalité et la fiction, et commettent des crimes en trouvant ça normal.
Donc maintenant, on en vient à faire l'amalgame entre un petit boutonneux en manque de muscles qui passe ses journées devant son ordi ou sa console et un grand terroriste barbu lourdement armé, juste parce que c'est plus médiatique. C'est plus facile d'accuser les jeux que les parents qui sont irresponsables, parce que les parents n'ont pas forcément qu'on leur dise cette vérité.
Détruire des robots ou des ennemis virtuels dans un jeu permet à certaines personnes de se détendre. Moi, en tout cas, ça m'aide. Si vous préférez qu'ils se détendent sur de vrais êtres humains, comme cela arrive déjà trop souvent dans cette société, je vous souhaite d'être ces êtres humains.
Et les violences réelles, ne venez pas me dire qu'elles ne sont pas toutes liées à autre chose que les jeux vidéo. Par exemple, pendant l'Euro 2016, il y a eu des hooligans et c'était sûrement plus l'alcool que les jeux comme FIFA ou Street Fighter.
C'est d'autant plus dommage de blâmer les jeux vidéo que certains sont de véritables œuvres d'art sur lesquelles des équipes complètes ont travaillé pendant des années.
J'ajoute aussi qu'ils ne sont pas tous violents. Par exemple, c'est pas en jouant à Super Mario qu'on devient un criminel.
Moi, par exemple, j'ai commencé les jeux vidéo à 5 ans grâce à mon père. Et maintenant, ça se voit, je suis devenu un gangster. J'ai déjà braqué 3 banques, volé 6 voitures et je suis déjà allé plusieurs fois en prison.
Moi, j'ai débuté en jouant à Pokémon et Mario à 6 ans et aujourd'hui, je suis recherché dans le monde entier pour avoir découpé ma famille.
Il y a effectivement une violence liée à ces jeux. Elle peut être causée par la perte d'une partie. Et c'est plus une forme d'énervement, de rage comme on l'appelle, qui conduit à la violence envers des personnes ou des objets, plus souvent à la manette avec laquelle on joue. Moi, par exemple, j'en ai personnellement fait l'expérience en jetant mon portable sur le sol après avoir perdu une partie.
Donc cet énervement, le plus souvent, ça s'arrête dans les 30 minutes suivant la partie. Et ça peut aussi bien être causé par une partie perdue au Monopoly où on lancerait le plateau ou quelque chose qui ne fonctionne pas dans la vie de tous les jours. Qui s'est jamais énervé après un réveil qui n'a pas sonné ? Donc pour maîtriser ça, c'est surtout un travail psychologique.
Selon nous, les médias exagèrent la cause néfaste des jeux vidéo pour avoir quelque chose à dire et rendre leur sujet intéressant. D'après une étude publiée par la revue Personality and Social Psychology, le jeu vidéo ne rend pas violent, mais l'énervement qui découle d'une défaite peut causer des actes violents.
Donc pour clôturer notre sujet, nous allons vous présenter une liste des meilleures sorties du moment sur toutes les consoles. Donc en cinquième place, on a placé Ghost Recon Wildlands, qui est sorti sur PC, PS4 et Xbox. C'est un TPS, Third Personal Shooter. Donc en français, ça veut dire jeu de tir à la troisième personne. Et ça se passe dans le futur en Bolivie, où on peut jouer seul ou à la tête d'une équipe, et on devait faire face au trafic de drogue dans un cartel de Santa Blanca.
Donc en quatrième place, moi j'ai décidé de mettre Outlast 2. C'est un bon jeu d'horreur sur PC, PS4, Xbox One. C'est un jeu très stressant à cause des musiques et de l'ambiance très sombre. On incarne un journaliste qui enquête sur un meurtre apparemment impossible. Je le conseille aux fans de jeux d'horreur.
Donc en troisième place, on place le DLC de Battlefield 1. Donc c'est une extension du jeu dans laquelle on peut jouer avec l'armée française pendant la Première Guerre mondiale. Donc c'est bien pour ceux qui aiment jouer et aussi pour les fans d'histoire. En deuxième place, on place Horizon Zero Dawn. Donc on parlait d'œuvres d'art tout à l'heure, donc celui-là c'en est une. Graphiquement, il est magnifique et l'univers est assez spécial mais très bien conçu. C'est un mélange entre les hommes préhistoriques et le futur un peu. Donc par contre, il est exclusivement sur la PS4.
Donc en première place, on s'est concerté, on a décidé de mettre le nouveau Zelda, Zelda Breath of the Wild, qui est sorti sur la nouvelle console de Nintendo, la Nintendo Switch. Donc on incarne encore une fois Link, un personnage capable de se battre à l'épée et à l'arc. On doit encore aller sauver la princesse Zelda comme dans tous les opus.
Donc vous, ça vous arrive de jouer aux jeux vidéo ?
Non, pas vraiment, parce que je suis plutôt du genre de personne qui jette tout.
Ok. Bah, merci de nous avoir invités.
Merci beaucoup Théo et Virgile. Merci. Et chers parents, restez tout de même vigilants face au jeu. Et maintenant, une nouvelle dédicace, mais cette fois-ci aux amateurs de jeux vidéo. Maintenant, j'accueille Milan et Stéphane. Passons à un tout autre sujet qui est le service militaire avec Stéphane, grand collectionneur de chars, et Milan qui aime beaucoup manger.
Bonjour.
Bonjour.
Je vais vous parler d'un sujet qui nous motive. Le service militaire qui a été supprimé en 1997 par Jacques Chirac, qui était à ce moment-là président de la République. Il a été supprimé, mais est-ce que c'est une bonne idée ? On se rend bien compte que c'était un bon moyen pour protéger les jeunes dans la société.
Mais le 18 mai 2017, Emmanuel Macron a relancé le débat. En présentant son projet pour les armées, le candidat au présidentiel a proposé d'instaurer un service militaire d'un mois pour les filles et les garçons dans les 3 ans qui suivent leur majorité, de 18 ans à 21 ans.
600 000 personnes devraient l'effectuer chaque année. Et ces jeunes adultes, encadrés par les armées et la gendarmerie, suivraient une formation militaire élémentaire, discipline, sport, cours de stratégie, ainsi qu'une formation au premier secours.
Un bilan de santé et de connaissances scolaires serait aussi effectué. Ce projet aidera ainsi les jeunes à préparer leur entrée dans la vie professionnelle, comme dans leur vie de citoyen.
Et est-ce que le service militaire serait exactement comme avant ?
Oui, il se peut que les activités, les entraînements et les formations soient différentes que de celles que nous avons connues, mais je pense qu'il y a une forte chance pour que ce soit comme avant. Après, les lois ont changé, donc le service militaire peut avoir quelques modifications.
Nous pensons que le rétablissement du service national est donc fondé sur le plan de la sécurité, puisque nous n'en avons pas fini avec les troubles intérieurs et extérieurs.
Nous entrons dans un cycle de violence sur le territoire français qui va durer des années, sans doute des décennies. Et nous aurons besoin de militaires bien formés pour la protection de la France.
Merci beaucoup pour cette chronique.
Merci à vous.
Merci à vous.
Et bien sûr, tout le monde... Et bien sûr, tout le monde aura reconnu la petite marche interprétée par Zoé. Merci Zoé. Et maintenant, pour le plus grand plaisir de nos auditeurs, j'accueille Monsieur Arthur et Monsieur Tom. Arthur, vous êtes un blondinet aux yeux noisettes et vous avez la particularité d'avoir une mâchoire en acier façon le méchant James Bond. Ça va, ça fait pas trop mal ?
Non, ça va.
Et Tom, vous aimez le ballon rond et la drague. Sacré passe-temps, dis donc.
Bah oui. Alors, Emily, savez-vous jouer au football ?
Pas vraiment.
Avez-vous déjà assisté à un match de football ?
Oui.
Vous êtes peut-être supportrice de l'équipe de Métabier.
Ah oui ?
En théorie, tout le monde le connaît, le foot. Mais partons du fait que quelqu'un ignore tout de ce sport. Et c'est d'abord à eux que je m'adresse. Alors, pour faire simple, le football est un sport. Et non, Emily, ce n'est pas un concours de mode, ni un jeu télévisé, non. Il s'agit bien d'un sport. Un sport né en octobre 1848, avec les règles de Cambridge, et non pas les équerres. Ensuite, des nouveaux clubs indépendants apparaissent à la fin des années 1850.
Le football est un sport que l'on pratique collectivement et qu'on pratique avec un déguisement spécial, comme des chaussettes hideuses, des chaussures avec des crampons pour ne pas glisser sur le terrain, un maillot de son club avec son petit chiffre fétiche qui ne peut pas monter au-dessus de 100, des morceaux de plastique qui servent à protéger ses tout petits mignons tibias. Et le plus important, c'est un ballon rond qui n'est pas trop petit et qui n'est pas très dur. Le but, c'est de marquer des buts, sans utiliser les bras, juste grâce aux pieds, aux jambes, à la tête et au torse.
Dans le football, on peut voir les placements sur le terrain avec 10 joueurs et un gardien. Le gardien, de préférence très très grand, pour piquer la balle au buteur. Des grands épais en défense pour couper les jambes des attaquants et les polyvalents au milieu de terrain. Les ailiers, ceux qui sont attaquants, mais à gauche ou à droite, sont des coureurs de l'extrême. Puis au final, les attaquants qui doivent avoir une belle finition.
Un match de football se joue sur un terrain en herbe, d'environ 105 mètres de longueur et 70 mètres de largeur. Ouais, ça en fait. Mais hélas, dans le foot, il existe aussi de la triche.
Par exemple, parlons de l'arbitrage. Les arbitres peuvent être payés par les clubs pour faire gagner leur équipe. Eh oui, ils feront alors exprès de laisser ou pas des fautes ou encore d'exclure les joueurs pour les petites fautes. Bouh !
Il va aussi laisser l'avantage pour les hors-jeux.
Bouh !
Et pensez qu'à l'étranger, les affaires de triche peuvent être énormes. Les arbitres et les joueurs peuvent être aussi influencés par les gangs, comme l'histoire des arbitres payés par le gang de Singapour. L'arbitre Ibrahim Shaibu, d'origine nigérienne, est soupçonné d'avoir truqué 15 matchs internationaux depuis 2010. Il a pris sa retraite en 2012 et a reçu aucune sanction.
Bouh ! Tenez, il y a 2 semaines environ, il y a eu un match opposant la réserve du FC Barcelone face au Deportivo Eldense, une équipe de division 3 espagnole. Les entraîneurs, le coach et les joueurs de Deportivo Eldense crient au scandale du match truqué pour soi-disant des paris des Barcelonais alors que le match n'était pas truqué. Tout ça pour vous dire que beaucoup de gens parlent des matchs truqués car ils sont énervés de la défaite de leur équipe alors qu'en réalité, les matchs n'étaient pas truqués. Et des exemples de tricherie, on en a à la pelle, malheureusement. Et si encore il n'y avait que ça ?
Émilie, avez-vous déjà entendu parler du dopage dans le foot ?
Pas trop.
Dans le foot, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment beaucoup évoqué par les médias. Vous savez ce que c'est que le dopage ?
Oui, c'est quand on prend une substance illicite pour être au meilleur de sa forme ?
Presque. C'est une pratique qui consiste à utiliser des moyens artificiels, comme des substances ou des techniques médicales, pour améliorer ses performances dans un sport de compétition, et c'est souvent les sportifs de haut niveau qui en sont les victimes.
Dans le football français, nous avons le cas de Mamadou Sakho. Il s'était dopé lors d'un match de la Ligue Europa en huitième de finale qui opposait Liverpool. Côte-côte ! Son club face à Manchester United. Il a été contrôlé positif au code antidopage. Il a donc été suspendu pendant 30 jours par l'UEFA.
Vous avez déjà entendu parler de l'UEFA ?
Oui.
C'est l'Union des associations européennes de football. Cet organisme est chargé de s'occuper des affaires du football. Grâce à cet organisme, nous pouvons être, entre guillemets, en sécurité contre la triche, car nous pouvons enfin dire qu'une fédération s'occupe des sanctions et ne laisse pas tout aller.
Pour conclure cette chronique, pensez-vous que la triche soit un réel fléau ?
Oui, un réel.
Certaines personnes pratiquent la triche pour éviter la difficulté et le travail dur. Elles sont obsédées par la vitesse et la performance, et elles veulent réussir à tout prix. Pourtant, on sait que la triche nuit, jour, à la construction de l'individu, l'empêche d'effectuer un véritable apprentissage et fausse les résultats.
On peut aussi penser qu'elle affaiblit la force morale, la capacité à s'affirmer, à faire preuve de créativité dans sa vie personnelle et professionnelle. Il est normal que la triche soit sévèrement punie par des sanctions.
Merci beaucoup les garçons pour cette chronique.
De rien.
Merci à vous.
Save Radio Edit, c'est ce que je vous propose sans plus attendre.
Save.
J'accueille désormais Manon. Manon, vous êtes une grande timide, vous aimez écrire et faire du cheval, n'est-ce pas ?
Oui. Bonjour Émilie, je suis venue pour vous parler d'un sujet à la fois épineux, très actuel, sensible et qui me tient vraiment à cœur.
Vous m'intriguez. Serait-ce l'environnement ?
Pas du tout.
Les élections présidentielles, alors ?
Encore moins.
Je ne sais pas. Le racisme, le mariage pour tous ?
Ah, c'est pas très loin de ça.
Le mariage ?
Non, le divorce.
Ah oui, effectivement. Actuel, épineux, sensible, je comprends, oui. Et pourquoi avez-vous choisi de nous en parler ?
Tout simplement parce que c'est un sujet qui concerne un grand nombre d'entre nous et qui reste difficile à vivre, même s'il est de plus en plus accepté par la société. Et enfin parce qu'il touche autant les adultes que les enfants. Bien sûr, au départ, il s'agit d'une histoire d'adultes qui tourne au vinaigre, mais lorsque ces adultes sont aussi des parents, eh bien, ce sont des enfants qui sont touchés de plein fouet. Et là, ça devient vraiment une autre paire de manches. Mais pour commencer, un peu d'histoire. J'imagine que de tout temps, le divorce a existé, dans toutes les civilisations et sur chaque continent. Mais en France, c'est à partir de 1792 que le divorce n'a fait qu'augmenter. Émilie, savez-vous approximativement en pourcentage combien de mariages finissent par un divorce ?
Non, dites-moi tout.
Eh bien, 45%, ce qui est énorme. Les conséquences de cela sont que plus d'1,6 million d'enfants vivent aujourd'hui dans des familles recomposées et que 8% des familles françaises sont recomposées. Bien sûr, tout ça ne sont que des chiffres, mais derrière ces chiffres, ce sont des familles entières qui éclatent. Et si dans certains cas, le divorce peut être un soulagement, dans d'autres cas, il peut s'agir d'une souffrance.
Je vous remercie pour un instant historique. Peut-être pouvez-vous vous parler du divorce plus personnellement et approfondir un peu plus vos pensées.
Très bien. Alors je vais vous parler de mon opinion face au divorce. Car j'ai vécu le divorce de mes parents à l'âge de 3 ans et que je trouve que c'est important d'en parler. Tout d'abord, je pense que pour éviter pas mal de divorces, il faut réfléchir avant de se marier et penser aux conséquences qui vont suivre si vous avez des enfants. Il est prouvé que la plupart des enfants de parents divorcés sont en échec scolaire et la plupart vont consulter des psys parce que la séparation de leurs parents les ronge. Les enfants peuvent changer de comportement vis-à-vis du nouveau conjoint de leur mère ou leur père, comme moi je l'ai fait. J'ai énormément souffert quand ma mère s'est remise en couple. Je suis devenue plus turbulente à la maison et mon caractère a complètement changé. Et j'ai commencé à me rebeller, voire même à être agressive. L'ambiance chez moi est devenue pénible et difficile et je pense que tous les enfants sont sous l'emprise de la peur de perdre leurs parents et d'être laissés à part comme à l'abandon. C'est difficile pour un enfant de comprendre que ses parents ne se remettront plus ensemble. Comme le dit Guillaume Musso, un écrivain français, je pense que la plupart des enfants de divorcés nourrissent le secret espoir de revoir un jour leur père et leur mère ensemble.
Merci beaucoup Manon pour cette chronique émouvante. Mais chacun sait que c'est impossible, alors quelles sont les solutions pour que les enfants soient bien dans leur basket ?
Je dirais, mais ce n'est que mon avis, qu'en premier lieu, les parents ont un devoir, c'est celui d'expliquer très clairement la situation à leurs enfants et de répéter autant de fois que nécessaire. Je crois que dans le cas d'un divorce, toute vérité est bonne à dire. De toute façon, ça ne changera pas la situation, alors les parents n'ont rien à perdre que de prendre le temps d'exposer les choses. C'est ce qui permettra aux enfants de se construire, d'avancer sans traîner des casseroles qui ne leur appartiennent pas. Quand tout est clair dans notre tête, c'est quand même plus simple d'envisager l'avenir. J'invite donc les adultes, parents, qui souhaitent se séparer à bien prendre la mesure des choses. Si l'amour n'existe plus au sein de leur couple, on espère au moins qu'il existe encore envers leurs enfants. Parler, écouter, ce sont des actes d'amour.
Merci beaucoup Manon.
Thank you. tant pis pour la sonnerie, merci quand même Zoé. Et bien sûr, c'était Edith Piaf, monument de la chanson française avec La vie en rose. Je vous présente Nils. Nils, vous venez tout droit de Chauneuf, vous êtes un amoureux de la nature, vous parlez beaucoup, vous parlez fort et vous allez nous parler du prix du lait.
Merci beaucoup de cette invitation, merci pour les anecdotes.
De rien.
Donc, je suis ici principalement pour vous parler du prix du lait en France, sujet qui fâche. Saviez-vous combien coûte une brique de lait en moyenne en France ?
Pas vraiment.
En moyenne, une brique de lait coûte 98 centimes. Mais savez-vous combien un agriculteur touche de ces 98 centimes ? Il touche moins de 29 centimes. Vous trouvez ça normal, vous ?
Non.
Ben moi non plus, je trouve pas ça normal. Je suis désolé, mais bon, quand même, ce métier est qu'un métier dur. Pour les agriculteurs, parlons de la Bretagne, par exemple, les Bretons ne peuvent pas toucher la moitié d'un SMIC. Mais vous vous rendez compte ? Comment on peut vivre avec moins d'un SMIC ? Moi, je ne comprends pas. Je suis désolé, mais il va falloir vraiment trouver quelque chose. Parce que là, vivre avec moins d'un SMIC par mois, je ne sais pas comment faire, moi.
Vous parlez de Bretagne. Pourtant, vous venez de Franche-Comté.
Oui, ben, je ne parle pas trop de la Franche-Comté. Parce que la Franche-Comté, on n'a pas ce problème en Franche-Comté. Parce que nous, comme on a un lait à AOP, un lait à compter, donc appellation d'origine protégée, notre lait, il est vendu à 45 centimes du litre. Donc 45 centimes du litre, c'est bien assez pour vivre, quoi. C'est un peu plus d'un SMIC. Donc voilà. Donc après, voilà, moi, je prends la Bretagne parce que je connais des gens là-bas. Les gens, ils me disent, nous, on passe au bio parce que le bio... on peut faire que ça. Y en a aussi qui partent, qui viennent du porc. Mais, putain, moi, je comprends pas qu'on puisse abandonner des vaches pour du porc, surtout que le porc en Bretagne, il y a eu des sérieux problèmes au niveau des algues vertes. Et aussi, au niveau financier, ça coûte bien plus cher de faire du porc que des vaches, quoi.
Et que voudriez-vous qu'on fasse pour améliorer le sort des agriculteurs ?
Bah, pour améliorer le sort des agriculteurs, moi, ce que je demande, et je pense qu'on est nombreux à demander ça, c'est une forte augmentation du prix du lait, parce que 29 centimes, moi, faudrait que tout le monde passe à 45 centimes, quoi. Je suis désolé, on est à 45 centimes en Franche-Comté, pourquoi pas en Bretagne et partout ailleurs.
Merci Nils pour ce billet d'humeur mouvementée. Retrouvons à présent M. Ferrat, de son prénom Jean, pour la montagne, que depuis les fenêtres de notre collège, nous pouvons admirer à chaque heure de la journée. Si on n'a pas de la chance.
Il quitte un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original, quand ils s'essuyaient machinal, d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos, tuer la caille ou le perdreau, et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années.
Maintenant, j'accueille Lenny et Nicolas.
Eh bien, bonjour à tous.
Bonjour.
Aujourd'hui, on va visiter le plateau du Haut-Doubs. Avant notre ami Valentin qui est parti en balade de Moutes jusqu'au Jura en passant à Chauneuve. On part de l'autre côté, vers Saint-Antoine. Attachez vos ceintures et bonne visite.
Eh oui, prenons la départementale 47 jusqu'au rond-point de Saint-Antoine. Et commençons notre visite par l'ancien fort militaire. Les caves d'affinage.
J'en profite pour vous rappeler que nous sommes en direct du Collège La Source et que chaque intercours est ponctué d'une petite sonnerie. Mais reprenons le cours de notre émission, Lynn.
Alors oui, l'ancien fort militaire. Aussi dit les caves du fort... les caves d'affinage Marcel Petit. Ce lieu se situe sur le toit de Saint-Antoine, à 1100 mètres d'altitude. En effet, plus de 100 000 meules de comté dorment ici jusqu'à un an et demi.
Continuons dans un petit village appelé les Hôpitaux Vieux, au stade nordique de la Seigne. Ce stade nordique possède un pas de tir pour le biathlon et plusieurs kilomètres de piste. Ce site nordique est praticable été comme hiver, mais la neige n'est pas présente au mois de juin, mais un superbe enrobé très pratique pour le roller.
Repartons dans la grande gastronomie, le comté. Le comté est fabriqué dans les coopératives traditionnelles. Et si vous avez de la chance, vous pouvez assister à la coulée du lait au chalet. Eh oui, c'est encore un geste ancestral répété matin et soir par les agriculteurs pour la fabrication du comté. Mais attention, la coulée du lait ne se passe pas partout. Mais à Saint-Antoine, vous pourriez y assister.
Repartons dans le ski pour les amateurs ou professionnels de ski alpin. Vous pourrez vous amuser, vous payer des bonnes gamelles et ne vous inquiétez pas pour remonter en haut des pistes. Il ne faut pas marcher car des remontées mécaniques sont à votre disposition. Pour l'après-ski, Zaza pourra vous vendre un bon chocolat chaud ou plein d'autres boissons ou autres réconforts.
Mais qui est Zaza ?
C'est une figure du ski de Métabier.
Ah, d'accord.
Merci pour votre écoute. Nous espérons vous retrouver soit sur les pistes de ski ou lors de la coulée du lait à Saint-Antoine.
Merci beaucoup à Léni et Nicolas et bon retour à Saint-Antoine.
Merci.
Et au Touillon. C'était Zoé avec Colchic dans les prés de World Pas Cela. J'accueille à présent Valentin. Valentin, vous êtes aussi un passionné de la nature et de la Franche-Comté. Vous allez nous parler de votre belle région.
Bonjour Émilie. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler du peu d'intérêt des citoyens français à l'égard des régions qui font l'image de notre pays. La France.
Douce France, cher pays de mon enfance.
Je pense que les gens n'ont pas conscience du patrimoine culturel et géographique que possède notre pays, et moi le premier. C'est pourquoi j'ai décidé de partir en balade avec vous au cœur de la Franche-Comté, magnifique région comme tant d'autres en France. Notre balade débute à Mout, où je me trouve actuellement. Son surnom est la Petite Sibérie. Oui, c'est vrai, l'hiver il fait froid, mais n'allez surtout pas croire qu'il fait moins 20 avec 2 mètres de neige au mois d'août. Si vous êtes de nature calme et sereine, allez donc faire un tour à pied à la source du Doubs. Vous ne pourrez certainement pas vous baigner, ça caille toute l'année. Vous pourrez juste pique-niquer en vous faisant bercer par le bruit de l'eau. Mais ne vous attardez pas trop. Pour les sportifs, en lot en vélo, vous pourrez rejoindre Chauneuve au galop en moins de 30 minutes. En longeant un petit ruisseau qui se prénomme le Sébriot. Chauneuve est mondialement connu pour sa discipline qui mélange saut à ski et ski de fond, le combiné nordique. Le grand tremplin de la côte feuillée est impressionnant, mais pas de panique, car même si vous venez au printemps et qu'il n'y a plus de neige, grâce au revêtement synthétique du tremplin, vous aurez peut-être la chance de voir des sauteurs. Si vous êtes allergique au sport, mais que vous aimez l'histoire, de l'autre côté du village, on entend sonner l'église datant du XVe siècle. Du haut de son promontoire, elle domine ses admirateurs et en plus, elle est classée au patrimoine. Mais si tout cela ne vous dit toujours rien, c'est très certainement que vous êtes branché mécanique et vieille machine. Alors allez donc faire un tour au bon vieux temps.
Et je remonte sur mon tracteur. Je fais péter le démarreur. Et le tracteur n'est pas parti. Je suis descendu du tracteur. Je vers le capot du moteur, débouche le bouchon du radiateur.
Ce musée se trouve dans le hameau de la Chenau, toujours sur la commune de Chauneuve. Vous pourrez admirer vieux tracteurs, voitures en tout genre, utilisées au tout début de la mécanisation, il y a des dizaines d'années en arrière. Toujours dans le même esprit, vous pourrez visiter le musée Michaud à Chapelle-des-Bois, près de la frontière du Jura et de la Suisse, où une équipe de passionnés vous expliquera l'usage d'outils et de techniques centenaires. Vous apprendrez à cultiver et récolter comme autrefois. À quelques kilomètres de là se trouve le site de ski de fond du Pré-Poncé, avec ses dizaines de pistes et parcours pour tous les niveaux. Et si ce jour-là la glisse est bonne et le bon temps au rendez-vous, alors pourquoi ne pas chausser les skis et partir en direction de la ferme de la GEC, histoire de se fixer un but. Oui, c'est vrai, la montée est longue et sinueuse, mais à l'arrivée, la vue est magnifique sur la forêt du Croc, frontière naturelle avec le Jura, et juste derrière vous, la Suisse. Tout ça en savourant une bonne part de tarte à la myrtille. Pas grave si vous vous êtes goinfré. Il ne vous reste maintenant plus que la descente. Et c'est ainsi que se termine notre balade au cœur du Haut-Doubs. J'espère que je vous aurai donné envie de venir le voir le temps d'un week-end et pourquoi pas même plus encore.
Merci, vous nous avez fait voyager. On s'y croyait vraiment. Et maintenant, Lenny va nous interpréter une chanson, Les abeilles du Haut-Doubs. Les armeilles du Haut-Doubs.
Les armeilles. Mon beau Jura, berceau de mon enfance, j'aime tes bois, j'aime ta voix, sur tes coteaux. Où croissent les anciennes, j'aime l'été m'y promener, mais l'on entend là-haut, tout là-haut, j'entends chanter dans son chalet le fromager, et l'on entend là-haut, tout là-haut, dans son chalet, le fromager. Sous nos sapins où poussent les morilles, à plein mouchoir, il fait bon vous cueillir. Nous vous cueillons toujours avec délice, pour le baptême de nos chers petits. Mais l'on entend là-haut, tout là-haut, j'entends chanter dans son chalet le fromager. Et l'on entend là-haut, tout là-haut, j'entends chanter dans son chalet le fromager. Ô Créateur qui fit si bien les choses, nous te disons mille fois merci. Nos beaux sapins et nos verts pâturages, ô que c'est bon, ô que c'est doux. Mais l'on entend là-haut, tout là-haut, j'entends chanter dans son chalet le fromager. Et l'on entend là-haut, tout là-haut, j'entends chanter dans son chalet le fromager.
Merci Lenny pour cette belle interprétation. Voilà, parole aux collégiens, c'est terminé pour cette année. Nous tirons notre révérence, mais d'autres prendront peut-être la relève. Enfin, on l'espère. Nous remercions mille fois chaque auditeur, chaque spectateur, chaque membre de l'équipe éducative du Collège de la Source pour leur écoute et leur fidélité. Un remerciement tout particulier à M. Madelon, documentaliste du Collège, pour avoir si bien accueilli dans son CDI. CDI qu'il quittera à la fin de l'année pour une retraite bien méritée. Quant à nous, élèves de 3e, et bien c'est aussi vers d'autres horizons que nous nous envolerons. Et oui, adieu le collège et bonjour le lycée. Pour quelques heures encore, nous sommes le mardi 11 avril 2017. C'était Émilie pour Radio Active, la radio des jeunes qui ont la parole active. Bonne route, bon vent, profitez de la vie et encore merci!